Vous écoutez Radio PFM, un média associatif local. Et régulièrement, PFM organise des ateliers avec différents publics, enfants, ados, jeunes, moins jeunes. Chaque samedi, on organise une sorte de club média, en tout cas un espace de pratique journalistique pour les jeunes de l'Arrajois, un moment de rencontre et de réflexion sur l'information, les médias. Ça s'appelle le Radio Lab. Régulièrement, dans le cadre de cet atelier, le Radio Lab, les participants sont amenés à rencontrer des journalistes. Et aujourd'hui, il vous propose un long entretien avec un étudiant en journalisme. Il s'appelle Charles Ducrot. Vous le connaissez peut-être parce que c'est un ancien animateur et chroniqueur de PFM. Donc Charles, au micro des participants du Radio Lab.
Alors bonjour, je suis Lou, je suis en compagnie de
Adèle,
Thaïs
et Nico.
Et aujourd'hui, on interviewe Charles Ducrot.
C'est bien ça, bonjour à tous.
Est-ce que tu peux nous parler de tes études ?
Oui, alors je suis étudiant en journalisme et en sciences politiques à Lille, donc à l'Académie ESJ. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu l'ESJ, c'est l'École supérieure de journalisme. Donc on y apprend les bases du métier de journaliste. Moi c'est un peu particulier parce que je ne suis pas encore dans un master professionnalisant, c'est-à-dire que cette année je vais passer des concours pour intégrer cette fois-ci l'École de journalisme. En fait ce que je fais, c'est une sorte de prépa. Qui dure 3 ans, depuis le bac jusqu'à la licence. On obtient un diplôme, on passe des concours et ensuite on peut continuer voilà, vers le métier de journaliste. Donc ça se passe à Lille et puis c'est super, je m'éclate bien. Voilà, c'est une passion depuis toujours. Donc voilà.
Qu'est-ce que tu vises après tes études ?
Ben forcément, devenir journaliste. Il faut savoir que j'ai développé un attrait tout particulier pour la politique depuis maintenant quelques années. Le fait est que ben, déjà au lycée, je m'y intéressais. Je ne savais pas encore vraiment vers quoi je m'orientais. Parce qu'en fait, on peut devenir journaliste, mais voilà, il y a des journalistes qui travaillent, par exemple, chez Closer, qui travaillent voilà, pour des papiers comme Le Monde. Mais il y a aussi des journalistes qui partent en Afghanistan pour la télévision. Il y en a qui, tout simplement, sont correspondants dans une région quelque part en France, la Corrèze, hein, je dis n'importe quoi. Et ben voilà, tous ces gens-là sont journalistes, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en tant que journaliste. Et moi, j'ai développé du coup cette année, l'année dernière plutôt, vraiment l'attrait pour le journalisme politique. Donc voilà, interviewer des hommes et des femmes politiques, étudier un peu le monde politique, alors pas seulement en France, hein, un peu partout dans le monde. Par exemple, comment fonctionne l'Europe, comment fonctionne notre Assemblée nationale ici en France, voilà, comment ça se passe aussi aux États-Unis. En ce moment, il y a les élections américaines qui se préparent, on est en plein dedans. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vise. Après, est-ce que je vais y arriver ? Ça, c'est une autre question. Voilà, ce qui me reste encore 2 bonnes années d'études.
Tu as parlé de l'Académie ESJ. Comment ça se passe un peu les cours ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Est-ce que c'est théorique ou pratique ?
Oui. Alors, l'Académie, précisément, donc, ça dure 3 ans. On peut intégrer l'Académie en deuxième année ou en troisième année. En fait, il y a une sélection qui se fait après le bac sur dossier. Donc la condition, bien sûr, c'est d'avoir le bac. Il faut avoir des bonnes notes en français, il faut être bon, voilà, faut être bon un peu partout. Et on envoie un dossier via Parcoursup. Maintenant, j'ai connu Parcoursup, où on nous demande un peu voilà, quelles sont vos motivations, etc. Donc ça, c'est pour le recrutement. Ensuite, on intègre la première année. La première année, c'est très, très théorique. C'est-à-dire que on découvre ce qu'est le métier de journaliste. On ne pratique pas, on ne fait rien en fait dans le journalisme. Tout ce qu'on a, c'est des cours de décryptage de l'actualité. On approche petit à petit l'actualité, on essaye de se saisir de la matière parce que c'est très très riche. Donc il faut savoir trier en fait. Voilà, tous les jours on est abreuvé, surtout nous, notre génération, avec les réseaux sociaux, etc. Tous les jours, on reçoit un flot d'informations énorme. Donc nous, on nous apprend à trier ça déjà dès la première année. On nous apprend aussi les bases, on reprend les bases, c'est-à-dire en français, on refait des cours d'orthographe, de conjugaison, comme quand on était au collège, au lycée, ça continue. Parce que non, je crois qu'au lycée, on n'en fait plus trop l'orthographe et de la conjugaison, mais voilà, on reprend un peu les bases, c'est même déroutant. Voilà, on fait de l'anglais, on a un cours qui s'appelle connaissance des médias, donc on essaye de, voilà, par exemple, à qui appartient tel média, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans tel média récemment, quels sont les grands changements que connaît telle radio, telle télévision, aujourd'hui sur Internet, qu'est-ce qui existe, voilà, on fait vraiment un tour d'horizon. Et donc ça, c'est pour la première année. La deuxième année est beaucoup plus axée dans la pratique cette fois. C'est-à-dire qu'en deuxième année, notre formation à l'Académie ESJ a un partenariat avec Radio Campus à Lille. Donc c'est une radio associative également hein, qui a sa grille d'émissions, etc. Et nous, on fonctionne par petits groupes. Le matin, on anime les matinales d'information et de culture. Donc on fait des petites chroniques, on fait les flash infos, on fait du reportage, on fait toutes ces choses-là. On reçoit un invité aussi, on pose des questions, on fait des interviews. Donc ça, on a ça, moi pour ma part c'était au premier semestre, un semestre sur deux. Au deuxième semestre, on a de la pratique mais en web. Donc on tient un site internet, on fait du journalisme de solution. Donc voilà, c'est encore un grand paragraphe, je pourrais vous expliquer si on a le temps ce qu'est le journalisme de solution après. On travaille déjà... Ouais, on a déjà un pied dans le milieu, on peut faire des stages, on rencontre des professionnels aussi qui viennent cette fois-ci, ce sont de vrais journalistes qui viennent nous enseigner le métier et comment ça marche. Et la troisième année, donc celle dans laquelle je viens tout juste de m'engager, est une année de préparation intensive au concours des écoles de journalisme parce qu'on ne devient pas journaliste comme ça, il faut passer des concours, c'est très très sélectif. Par exemple, hein, l'ESJ de Lille, c'est... presque 700 candidats pour 50 places. Donc, les places sont très chères et du coup, on s'entraîne toute l'année à passer des épreuves de concours. On s'entraîne à parler à l'oral, on s'entraîne à un tas de choses. Le but, c'est d'être prêt le jour J. Voilà, passer un concours, en avoir un et ensuite rentrer dans une école de journalisme reconnue par la profession.
Est-ce que tu as un hobbies ?
Ah oui, j'en ai plusieurs. Ah oui, j'en ai plein. Il faut savoir que je suis extrêmement curieux. Je pense même que c'est la base du journalisme, c'est d'être curieux. Et tout petit déjà, j'allais mettre un peu les doigts partout. J'ai aussi, comme tout le monde, voulu être super-héros et vétérinaire. Mais très tôt, j'ai su que j'allais être journaliste parce que justement, j'étais très curieux. J'ai deux grands hobbies qui sont, ça va vous paraître surprenant, hein, le jardinage. J'adore jardiner, c'est fantastique, je passe mon temps à jardiner. J'ai moins le temps maintenant, mais quand j'étais au collège et au lycée, je passais ma vie dans mon petit potager, c'était extraordinaire. Donc forcément, la nature. Et j'ai une très très grande passion qui est le monde aérien et la montgolfière notamment. J'ai décroché tout récemment le brevet de pilote de montgolfière.
Donc ce matin, c'est ça.
Ce matin, voilà. Donc je suis monté dans une montgolfière pour la petite histoire quand j'avais 6 ans et j'en ai gardé un souvenir incroyable. Et comme je suis un grand rêveur, j'ai toujours la tête dans les nuages. donc, c'est devenu une passion énorme. J'ai jamais lâché l'affaire et voilà. Donc je m'échappe grâce à ça. Après, je fais un peu de sport, un peu comme tout le monde. Je roule beaucoup en vélo. Enfin voilà quoi. Je sais pas si c'est un grand hobby, mais c'est cool aussi.
Qu'est-ce que le Parlement des étudiants et comment as-tu fait pour y entrer ?
Alors, ça c'est une grande question. Le Parlement des étudiants, c'est une association étudiante tout simplement qui est basée à Lille. En fait, ce que j'ai fait pour y rentrer, c'est que en rentrant dans le monde universitaire, en intégrant ma première année à la fac et à l'école de journalisme, parce que les cours se partagent, hein, j'ai oublié de le préciser, mais les cours se partagent entre la faculté et l'école de journalisme, pour l'instant, ce que je fais moi. Donc je passe moitié du temps, où j'ai 10 heures par semaine à la fac et 10 heures à l'école de journalisme, parce que du coup je passe à côté une licence en sciences politiques. Quand j'ai intégré la fac pour la science politique, j'ai voulu en fait m'engager dans le monde associatif. J'ai voulu trouver un passe-temps, quelque chose qui me permettrait de m'épanouir davantage dans mes études. D'autant plus que la politique m'intéresse énormément. J'ai vu cette association qui me faisait du pied. Parce que, en fait, il faut savoir que Dans la fac où j'étais, il y avait une asso qui s'appelait l'APEL. C'est l'Association parlementaire étudiante de Lille, qui est encore différente du Parlement des étudiants. Je vais y revenir. L'APEL, l'Association parlementaire étudiante de Lille, c'est une asso à la fac, hein, tout simplement, qui organise des débats, des conférences avec des hommes et des femmes du monde politique. C'est-à-dire que ça peut très bien être des journalistes, parce qu'on a aussi une part d'implication dans l'univers politique, hein, on parle d'un septième pouvoir même, des fois. On organisait des débats sur des questions d'actualité et des questions très politiques. En plus, c'était l'année des Gilets jaunes, donc c'était formidable. On avait plein de choses à dire, quoi, sur les réformes sociales, voilà, tout ce qui se tramait un peu. Mais on recevait aussi des gens, par exemple, une ancienne candidate aux élections présidentielles, Nathalie Arthaud, qui avait fait parler d'elle. On a reçu le journaliste Hugo Clément, on a reçu voilà, plein de gens qui sont venus nous parler, échanger. Moi, je me suis investi, en fait, dans l'organisation de ces événements. C'était surtout ça. L'année suivante, le bureau de cette association s'est renouvelé. Donc, j'étais candidat pour devenir coprésident de cette association parlementaire étudiante. Donc, dans ma deuxième année, j'ai été élu. Donc, j'ai géré cette association l'année dernière. Pas de bol, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait jusqu'au bout parce que le coronavirus est arrivé. Bon. Et j'ai découvert un truc fantastique avec cet asso aussi. Le Parlement des étudiants, donc l'année dernière. En fait, outre l'organisation de débats et de conférences, cette association, l'APEL, co-organise des simulations parlementaires. Une simulation parlementaire, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est voilà, le temps d'une soirée des étudiants qui se glissent dans la peau d'un député. Donc on intègre un faux parti politique, parce qu'on n'a pas le droit d'identifier les vrais, donc il y a des faux partis politiques de gauche à droite, et on vient défendre des idées sur des projets de loi. Donc je ne sais pas trop si vous savez comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, mais voilà, un projet de loi qui passe, je donne un exemple, la réforme de l'agriculture, voilà, on modifie tel texte, on modifie tel texte, on propose tel amendement, et on fait les votes, voilà. Et ça, c'est 4-5 fois dans l'année. Et l'association qui gère ces simulations parlementaires, c'est le Parlement des étudiants, dont fait partie l'Association parlementaire étudiante de Lille. Le Parlement des étudiants, c'est le regroupement de 3 associations en tout à Lille. Parce que l'APEL qui est à la fac, qui organise des événements, il y a l'équivalent en fait à l'école Sciences Po Lille et l'équivalent aussi à l'Université catholique de Lille. Donc ces 3 assos se regroupent en fait pour former le Parlement des étudiants et organiser ces simulations parlementaires. C'est compliqué, hein. Je vois les regards, j'espère que je suis assez clair.
On a vu sur ton Facebook que tu avais écrit des articles dans la Voix du Nord. Mm-hmm. Donc tu as écrit quel type d'article ?
Alors oui, c'est très vaste en fait, parce que la Voix du Nord, je suis rentré à la Voix du Nord il y a 2 ans. Ce que je fais à la Voix du Nord, en fait, c'est de la correspondance locale de presse. Donc, je ne suis pas vraiment journaliste encore là-bas. Je n'ai pas le droit d'écrire de gros articles. Voilà, par exemple, un fait divers, des choses comme ça. Ou par exemple, un sujet politique, ben, je ne vais pas écrire dessus. Donc, ce que je fais là-bas, c'est de la correspondance locale de presse. Donc, en gros, j'ai un petit territoire. Donc, moi, c'est la première couronne de la communauté urbaine d'Arras. Donc, voilà, les villages donnent des exemples. Il y a Saint-Laurent-Blangy, Beaurain, Télu, Mareuil, Dainville, enfin voilà. Et tout ce qui s'y passe dans la vie locale, donc c'est la vie associative, ça peut être les petites fêtes au village, ça peut être des portraits de personnes vachement intéressantes. Ça me revient là, mais par exemple l'année dernière à Télu, il y avait un salon du modélisme pour tout ce qui était du modélisme du chemin de fer. Mais une exposition immense avec plein de petits trains qui déroulaient sur des tables et tout. Et du coup, j'ai fait un article sur ça, quoi. C'est des petits événements et je suis chargé en fait de rapporter tout ce qui se passe sur la vie locale au journal La Voix du Nord. Après, dans le cadre de mes études, vu que j'apprends le journalisme, j'ai quand même des fois dérogé un peu à ce statut de correspondant local de presse pour faire de la pige. Donc la pige, en fait, c'est un statut particulier dans le journalisme, c'est-à-dire que on propose un service de journaliste, on envoie un article et on est payé à l'article. Donc et là, cette fois-ci, c'est des thèmes un peu plus importants, quoi. Donc voilà, on va aux conférences de presse, on fait des interviews et on fait des articles et des reportages un peu plus longs. Ça, j'en ai fait quelques-uns pendant les vacances, voilà, quand il y a un journaliste qui n'est pas là et que je peux remplacer, ou quand il y a quelqu'un qui tout simplement a autre chose à faire et, parce qu'il y a plein de travail et que du coup, on cherche du monde pour aider. Et ben, du coup, quand c'est comme ça, j'y vais.
Vous écoutez toujours un entretien avec Charles Ducrot, ancien animateur et chroniqueur sur Radio PFM, aujourd'hui étudiant en journalisme à Lille au sein de l'Académie ESJ. Il est au micro d'Adèle Thaïs et Lou, participant du Radiolab de PFM.
Est-ce qu'il y a un article qui t'a marqué ?
Oui, plusieurs. Alors, article à la Voix du Nord ou au sens large, une anecdote dans le journal.
Au sens large.
Bon, il s'avère que j'ai fait un stage l'année dernière dans une radio locale aussi qui s'appelle Radio Mélodie, qui est à Sarreguemines, c'est en Moselle, c'est en Lorraine, dans l'est de la France. Voilà, c'est super loin. Je suis arrivé en stage là-bas, on m'a très vite fait confiance, on m'a dit voilà, tu vas faire du reportage, donc il faut trouver un sujet. Et il s'avère que j'étais arrivé là-bas le 8 mai, donc le 8 mai il se passe rien. Et on avait une idée un peu originale, vous allez voir ça. Tiens, on va trouver quelqu'un qui travaille un 8 mai. Sauf que bon, dans l'univers du journalisme, on appelle ça un marronnier, c'est un sujet marronnier, ça veut dire que c'est un truc qu'on fait tous les ans parce qu'il ne se passe pas grand-chose et voilà, il faut le faire. Donc, défi, trouve quelqu'un qui travaille un 8 mai. Alors on pense tout de suite aux médecins, aux pompiers, voilà, à tous ces gens qui travaillent même les jours fériés. Mais il faut être original. Et donc, je me suis mis à chercher plein d'idées de métiers. Qui peut travailler un 8 mai, quoi ? Les éboueurs, déjà fait, tout ça. Bon. Je réfléchis et je tombe sur le contact d'une personne qui est porteuse de journaux. C'est-à-dire que son boulot, la nuit, c'est d'aller distribuer les journaux dans les boîtes aux lettres. Et j'appelle, je me dis, allez, on va y aller. Donc j'ai une dame très très sympa au téléphone. Oui, pas de souci, venez avec moi, vous allez pouvoir m'interviewer, pas de problème. Je lui demande si ça la dérange pas, je lui dis un peu de quoi on va parler, quoi. Le but c'est de faire connaissance, expliquer ce que vous faites. Et il faut savoir que ces gens-là, ils travaillent vraiment 360 jours par an, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont que 4 journées dans l'année où ils ne travaillent pas. Sinon, toutes les nuits, ils distribuent les journaux. Et s'ils veulent partir en vacances, eh ben, ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas les congés payés, ils n'ont pas tout ça. C'est un statut très, très particulier, c'est assez précaire. Mais ça, c'est des choses que j'ignorais totalement. Donc bon. Et cette dame, en plus, fait ses tournées pour distribuer les journaux la nuit, à pied. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui portent le journal, voilà, ils sont avec une camionnette et entre 5h du matin et 7h, c'est bon, quoi, ils ont fait leur tournée. Elle fait tout à pied la nuit. C'est-à-dire qu'elle part de chez elle, il est 1h30 du matin. Et elle me dit, ben, rejoignez-moi à 2h du matin à tel endroit. Ok, en plein milieu de la campagne, dans l'Est, bon, je ne connaissais pas trop et tout ça. Et j'ai passé la nuit en fait à parler avec cette dame avec mon micro tendu en train de porter des journaux dans les boîtes aux lettres, quoi. Donc jusqu'à 5h du matin, j'ai vu le soleil se lever et je déambulais dans le village à pied avec cette dame. Et ça, et elle avait tellement de choses à raconter. Voilà, elle était, c'était une dame qui savourait la vie. On voyait qu'elle adorait son boulot, même si c'était pas simple. En plus, elle fait ça en famille. Donc, il y a sa fille qui est porteuse de journaux, son mari est porteur de journaux. Et donc, c'était une histoire incroyable et j'ai trouvé ça génial. Ouais.
Et est-ce que sinon, dans tes articles que tu as fait pour La Voix du Nord, est-ce qu'il y en a un aussi qui t'a marqué ?
Oui, marqué, c'est sûr. Bah, je parlais avant du petit truc, les petits trains, là, le salon du modélisme, c'était drôle. Non, après, l'année dernière, j'ai suivi tout le mois d'octobre l'actualité politique de Martine Aubry. Parce qu'il y a un journaliste à La Voix du Nord qui ne pouvait pas être là tout ce mois-ci et il cherchait quelqu'un pour piger, pour venir travailler tout le mois d'octobre. Donc tous les week-ends d'octobre, j'étais à la rédaction de La Voix du Nord et je passais mon week-end à suivre Martine Aubry dans tous ses faits et gestes. Donc elle allait à droite à gauche, à telle inauguration, le soir elle allait dîner avec un tel, et puis au vernissage d'une expo. Donc à chaque fois j'étais là en fait pour récolter des infos, prendre des photos et puis aussi de temps en temps poser quelques questions à Martine Aubry. Donc c'était cool parce que comme j'aime la politique, forcément passer tous ces week-ends avec Martine Aubry, c'est sympa. Être gentil, hein, y a pas de souci. Donc oui, c'est marquant, c'est cool parce que c'est quand même une personnalité importante. Donc c'est vachement intéressant. Mais je pourrais en raconter plein parce que encore en radio, quand je faisais les petits flash infos, les reportages ici à Arras, j'ai fait mes premiers faits divers. Enfin, ça, c'est hyper marquant quoi, dans la vie d'un journaliste. Si, voilà, tu te rends sur place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un accident de bus il y a quelques années. Une conductrice qui est décédée après un choc frontal avec un camion de betteraves. Il y avait eu des blessés. Elle était morte sur le coup. Et tout. Bah, ça, c'est pareil. C'est des sujets qu'on apprend à traiter. Et c'était mon premier fait divers. Donc, tu vas sur le lieu de l'accident, tu ressens toute l'émotion, tu ressens la gravité, tu ressens... Ça aussi, c'est très, très marquant.
Où as-tu fait tes stages ?
Bonne question, parce que j'en ai pas fait qu'un. Enfin, pour reprendre depuis le début, j'ai commencé à Radio PFM en tant que bénévole tout jeune. Je sais plus quel âge j'avais, 11-12 ans. Ouais, peut-être, dans ces eaux-là. Mais en termes de stage, ouais, j'ai vite bougé. J'ai fait mon premier stage de troisième à France Bleu Nord, donc à Lille. C'était sympa. Bon, je faisais de l'observation, hein, donc je passais ma journée à table en train de regarder les gens qui parlent, mais bon, ça me plaisait bien. On allait aux conférences de rédaction, etc. Après, j'ai fait quelques rencontres, donc j'ai fait des journées d'observation plus que des stages parce que c'était plus ou moins informel, notamment à RTL à Paris. M6, où j'allais voir plusieurs journées dans le mois comment ça se passe, la fabrication d'un journal, etc. J'ai pu un peu travailler avec RTL de temps en temps quand j'avais un sujet de radio à faire dans le coin et que le correspondant de Lille ne pouvait pas venir ou alors il avait cherché des sons qu'il n'avait pas eu et j'ai pu en avoir, je lui ai proposé. Bon, on s'entraidait un peu. J'ai fait un stage du coup à Radio Mélodie dans l'Est qui a duré un mois où là c'était vraiment là pour le coup j'étais vraiment comme un journaliste quoi. Pendant un mois on me considérait comme un membre à part entière de l'équipe où j'ai fait plein de choses super intéressantes aussi et j'étais censé faire un stage au service politique d'Europe 1 au mois de mai. Bon, avec le confinement, ça n'a pas pu se faire. Ça se fera normalement le mois prochain. Je devrais y être pendant 2 semaines. Et je crois qu'au niveau des stages, c'est à peu près tout. Si, je suis passé par France 3 Nord-Pas-de-Calais 1 semaine aussi. Je suis allé voir un peu comment ça se passait là-bas. Et c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout.
C'est déjà pas mal, non ?
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah ouais, en termes d'expérience bénévole, après, sans que ce soit des stages, du coup, j'ai fait PFM et puis je suis passé par Planète FM, qui est aussi une radio locale ici à Arras, où je faisais du flash, du reportage et un petit peu de la web télé à Saint-Laurent-Blangy. Il y avait une petite web télé à Goura, ça s'appelle. De temps en temps, ils faisaient des petits reportages, des trucs comme ça. Donc j'y allais. C'était marrant, avec une caméra. C'est autre chose hein, que la radio. C'est mieux la radio, j'aime bien.
Quelle qualité il faudrait pour être journaliste ?
Eh bien, il en faut beaucoup. Non, les journalistes ont aussi leurs défauts, hein, bien entendu. Je pense que la première qualité, mais la première des premières, c'est être très très curieux. Enfin voilà, si on n'est pas curieux, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Ne serait-ce que faire des études en journalisme. Après, j'ai pas la prétention j'ai pas le recul et l'expérience d'un journaliste, donc je veux pas parler à leur place. Je pense que quelqu'un qui a 20 ans de métier en dira beaucoup plus que moi. Mais il faut être curieux, il faut être humble, et pas avoir peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'un journaliste, il va se réveiller le matin, il ne va pas savoir de quoi sa journée sera faite. Quoi. Ou alors il va avoir une idée, mais peut-être tout sera chamboulé. Voilà, du tout au tout, dans tout ce qu'il fera. C'est-à-dire que même le journaliste qui travaille chez Auto Plus, il va se passer des trucs comme ça dans ses journées. Quoi. Après, il faut avoir des qualités humaines, je pense que c'est important. Il faut savoir, faut aimer les gens, il faut aimer parler aux gens, il faut aimer... faut pas être trop timide ou alors vouloir, ne serait-ce que vouloir vaincre sa timidité, c'est une excellente qualité. Parce que je pense que les gens qui de base sont timides peuvent devenir journalistes. Enfin, il n'y a pas de barrière en fait. Et il y a une qualité qui est quand même importante. Et ça, c'est plutôt dans le cadre des études, c'est d'avoir un bagage culturel, enfin, de développer en fait un bagage culturel, c'est-à-dire de par la curiosité, on y arrive, pas hésiter à lire des livres, s'informer, lire un bouquin, lire un journal, regarder des tas de choses différentes, jamais regarder tout le temps la même chose, jamais s'enfermer dans ses idées, faut développer son esprit critique en fait, faut développer tout ça.
Pour cet atelier, ce trimestre, notre thématique, c'est le futur. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans, Charles ?
C'est difficile. Je me vois journaliste, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais où, je ne sais pas. J'ai plusieurs plans. Mais après, être journaliste, c'est aussi savoir accepter les contraintes liées aux réalités du métier et du travail. On n'en trouve pas partout. Ça, c'est un fait aussi. Et c'est quelque chose qu'on nous apprend en école de plus en plus. C'est que c'est difficile économiquement parlant, hein, le journalisme. Mais il ne faut pas non plus renoncer à ses ambitions. J'en ai et je vais devoir apprendre à les assumer pour passer les concours. J'aimerais être journaliste politique. Donc, idéalement, travailler dans un service politique, dans une radio, dans une télé, parce que j'ai toujours aimé la radio, j'ai toujours aimé l'oralité. Donc, écrire, ça, j'adore aussi écrire, mais ça m'ennuie. J'ai pas un style, je sais que je suis pas à l'aise dans l'écriture. Donc, bon, voilà. Donc journaliste radio, journaliste télé, si possible politique, et il y a quelque chose qui me branche à fond, et parce que j'en ai discuté avec un journaliste d'Europe 1 grâce à qui je vais pouvoir faire mon stage, qui lui est chargé de l'exécutif en tant que journaliste politique, c'est-à-dire que il passe ses journées à l'Élysée, à Matignon, à Paris, à courir après les ministres, à courir après le président, après le premier ministre. Dès qu'il y a une conférence de presse là-bas, c'est lui qui y va. Dès qu'il y a un déplacement ministériel, donc intéressant, hein, je dis bien, à suivre, c'est lui qui y va aussi. Par exemple, Emmanuel Macron était il y a quelques jours en Corse. Le journaliste en question était soit il part avec le président dans son avion, mais c'est quand il part à l'étranger, soit il va sur place avant le président et puis il s'installe. Et puis voilà, dès que le président se déplace, il le suit, etc. Et donc, il rapporte tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans les entrailles du pouvoir. Ça me fait un peu rêver. En aimant la politique, c'est un truc qui est quand même assez badass. Je pense que c'est déjà bien. Sinon, moi, je me vois pas. Je sais où je me vois pas en fait. Je sais où je me vois pas dans les médias très 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 écrits, les trucs sur du. Je me vois pas dans un bureau enfermé à longueur de journée, pas voir grand monde. Il y en a qui aiment, hein. Il y a des journalistes qui font ça, hein, qui sont derrière un bureau toute la journée et qui construisent des brèves, des dépêches, qui relisent, C'est moins ce que j'aime. Donc, après, pourquoi pas un jour de la présentation, une matinale, j'en sais rien. Hein. Je dis pas non.
C'était un entretien avec Charles Ducrot, ancien animateur et chroniqueur de PFM, étudiant en journalisme à Lille, au sein de l'Académie ESJ. Un entretien réalisé par Adèle, Thaïs et Lou, participants du Radiolab de PFM. Alors c'était le 12 septembre dernier.